si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire.
Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien.
Notre maison brûle.
How dare you?
Les chroniques du hérisson.
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème.
Une émission proposée par la Frapna.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez les chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants présentée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche, basée à l'Argentière. Comme vous le savez peut-être, les chroniques du Hérisson ne sont pas toutes jeunes, hein, c'est notre 9e rentrée, et pour cette reprise, on a travaillé sur une toute nouvelle mouture. Mais avant de vous présenter les nouveautés, je voudrais d'abord remercier chaleureusement ma prédécesseur frapnesque, Françoise Dasque, et son équipe, avec qui vous avez pu découvrir toute la faune et la flore ardéchoise. Alors un grand merci pour toutes vos émissions. Quant à moi, je me présente, je m'appelle Lorraine Deptel, je travaille à la FRAPNA et je reprends donc le flambeau de ces chroniques. Au programme, nous parlerons d'écologie toujours, mais sous toutes ses formes. Comme il n'y a pas qu'une seule manière de traiter de l'écologie, les entrées étant multiples et infinies, on va essayer de les parcourir au fil de nos émissions. La philosophie, l'art, la culture, les sciences et les initiatives locales, la nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des événements dramatiques qui ont été le quotidien de notre été, les incendies. Comme vous le savez, 2022 a battu tristement tous les records, avec au 20 août déjà 62 000 hectares de forêts brûlées. Alors pour bien se rendre compte, ça correspond à 86 835 terrains de foot. Il y aurait vraiment beaucoup à dire sur ce sujet, mais on ne peut bien sûr pas traiter de tout dans cette première émission. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt porter votre attention sur ce qui se lit entre les lignes. Le 20 juillet, dans Libération, lors des incendies catastrophiques en Gironde qui ont brûlé au total sur ce territoire 26 726 hectares de forêt, on pouvait lire dans les gros titres « Pas de nouvelle évacuation, aucune victime ». Pas de victime, disait-on. Vraiment. Quoi de plus violent quand on pense à tous ces arbres et ces animaux qui n'ont pas pu fuir les flammes? Alors oui, effectivement, pas de mort parmi les humains. Et le reste du vivant. Pas de victime, disiez-vous. Ce propos est tellement révélateur du regard que l'on porte sur le monde, cette déconnexion totale avec ce qui le constitue. Ce 20 juillet, je tombe sur ce poste de Nelly Pons qui reprend cet article en écrivant qu'il n'est plus possible de lire ce genre de choses, que nous sommes face à des écocides. Ce poste, comme beaucoup d'autres qu'elle a écrits, m'avait beaucoup touchée. Nelly Pons est écrivaine, essayiste, elle a un parcours remarquable qui témoigne un profond engagement pour le vivant ainsi qu'une volonté de transformer notre rapport au monde. C'est donc très naturellement que je me suis tournée vers Nelly Pons pour être l'invitée de cette première émission. Je suis allée la voir le 15 septembre chez elle. On écoute. Bonjour Nelly, merci de me recevoir chez toi. Alors une question simple pour commencer, mais tout de même lourde de sens. Tu vis en Ardèche, comme nous tous, tu as été frappé cette année par les records de chaleur, de sécheresse, d'incendie. Comment tu as vécu cet été en tant qu'habitante déjà ?
Bien, bonjour Lorraine, merci pour ton invitation et ta confiance. Cet été a été particulier pour de nombreuses personnes. Dès le début juillet, en voyant l'état de la rivière, donc tu viens de le dire, tu es chez moi, on est en vallée Baume-Droby, on surplombe la confluence des rivières. Et il se trouve que comme on a eu une sécheresse précoce de printemps, dès début juillet, en voyant le niveau de l'eau et en sachant ce qui nous attendait, moi j'ai commencé à être personnellement très inquiète. Et ça se manifeste comme beaucoup d'entre nous par de l'anxiété et de la tristesse. Et pour contrebalancer ce que je viens de dire un petit peu, je trouve que finalement, l'écosystème ici, en tout cas, a été beaucoup plus résistant que ce que je n'aurais imaginé en début d'été, puisque en 2019, on a vu beaucoup plus de poissons morts dans la rivière que ce qu'on a vu cet été.
Alors, tu n'es pas qu'habitante de l'Ardèche, hein, tu es aussi et surtout écrivaine, essayiste. J'imagine donc que les mots tiennent une grande place dans ta vie, dans tes réflexions, dans tes approches. Alors qu'est-ce que cache pour toi cette formulation « pas de victime » que reprend notamment l'article de Libération ?
Bien, je crois que tu es venue à moi justement parce que j'ai écrit un post à ce sujet cet été. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a une forme d'inconscience collective face à ce qui se passe. Et cette inconscience qui est de l'ordre quand même de la non-reconnaissance, de la sensibilité d'autres formes de vie que la nôtre, de milliers d'espèces, de milliards d'individus. Et personnellement, je trouve ça gravissime, en fait, dans notre façon très auto-centrée, anthropocentrée, comme on l'appelle, de raisonner. À partir du moment où nous, Homo sapiens, ne déplorons pas de mort, on écrivait dans les journaux cet été qu'il n'y avait pas de victimes. Ça montre pour moi quelque chose qui est aussi fort que ce que c'est à l'origine même du problème, c'est-à-dire que notre non-considération de l'altérité, de l'autre, d'autres façons d'être au monde, d'autres êtres vivants, on appelle les êtres vivants non humains, est aussi, de mon point de vue, une des origines de toutes les causes écologiques que nous traversons aujourd'hui. C'est pourquoi mon message avait un double sens. Déjà parce qu'on ne peut pas écrire décemment qu'il n'y a pas de victimes quand il y a des centaines de milliers de morts. Et ensuite, parce que c'est vraiment une réflexion que je nous invite à explorer, parce que comme tu viens de le dire, les mots sont lourds de sens.
Et justement, si je laisse la question des incendies pour continuer sur ce que tu disais, en prenant encore un peu plus de hauteur, comment, d'après toi, notre culture et notre langage qui est intrinsèquement lié influent sur notre rapport au monde et au monde vivant ?
Alors, il y a quelque chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux, en tant qu'écologistes, à parler des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, c'est-à-dire qu'on voit bien que nous arrivons un peu au bout d'un modèle. Nous sommes dans un modèle de société, de production et de consommation qui nous amène dans le mur et nous avons besoin de réinventer des formes, de libérer nos imaginaires. Et quand on pense à ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces peuples, toutes ces cultures que notre modernité a également anéanties, c'est-à-dire qu'on est en panne d'imagination. On a l'impression que ça doit redémarrer de chez nous. Et en même temps, on a décimé, là aussi, alors là je vais rester chez les êtres humains, mais différentes manières de voir et d'être au monde chez ces êtres humains-là. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de penseurs, de philosophes, de naturalistes qui essaient de redéfinir un petit peu cette place que l'on s'octroie au sein du monde vivant par la science, mais aussi par la philosophie, par les textes. Et parmi eux, j'ai envie d'en citer deux. Il y a Philippe Descola qui a écrit cet essai par-delà nature et culture où il va remettre en question la notion même de nature, non pas qu'elle soit obsolète, juste pour nous aider à prendre conscience qu'elle est le fruit d'une représentation et qu'elle est un moyen pour nous de nous tenir à l'extérieur de cette nature. Et c'est parce qu'on crée une scission, en fait il y a l'homme et son environnement, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tous les êtres vivants qui peuplent son environnement finalement ne sont que des ressources que nous pouvons utiliser et dont nous pouvons abuser à volonté. Et donc lui, il propose de remettre ce concept-là en question. Alors ça donne des nouvelles choses sur, on n'appelle plus la nature, mais le monde vivant. Et là, je voudrais citer un deuxième philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est très connu dans le milieu écologiste aujourd'hui, qui nous dit que parmi les origines des crises que nous traversons se situe justement la crise de la sensibilité. Et là, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Comment peut-on être insensible à la disparition des espèces qui nous entourent ?
Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu dis souvent et qu'on dit souvent aussi à la FRAPNA qui est simple et évident, c'est nous sommes des animaux, on fait partie de ce vivant et on n'est pas extérieur à cette nature qui, en la nommant ainsi, ne fait plus partie de nous et c'est ça qui est délirant quoi déjà. Continuons sur le sens et le pouvoir des mots et prenons le terme « solution » qui définit l'idée de résoudre un problème. Dans nos sociétés occidentales, on parle beaucoup de changement de mode de vie comme solution au changement climatique. Et on entend partout, c'est beaucoup repris, l'idée qu'il faut transformer ses modes de déplacement, manger bio et local, acheter du seconde main. Ces évolutions sont essentielles, mais est-ce qu'elles sont d'après toi suffisantes ? Est-ce qu'elles sont de vraies solutions ?
Alors, concernant les solutions, il y a plein de choses à dire. Sur ce que tu viens de dire en priorité, c'est un petit peu le vieux débat qui oppose l'action individuelle et l'action collective. Donc déjà, il y a une première dualité qui, de mon point de vue, mérite d'être aussi remise en question. C'est-à-dire que soit on dit, bah, comme tu viens de le dire, bon, bah, voilà, l'individu consommateur doit se prendre en main pour réduire, pour mieux consommer, mais c'est aussi... Quand elle est poussée, en fait, à l'extrême, c'est aussi déjà un discours qui sert les intérêts économiques dominants, c'est-à-dire que c'est un discours qui est servi par les lobbies aujourd'hui, puisqu'il est quand même plus facile d'accuser des citoyens sales, mal éduqués, etc., que de remettre en question les systèmes de production eux-mêmes. Donc déjà, il y a un biais duquel il faut se méfier. En revanche, l'action individuelle, si elle est non suffisante, elle me paraît essentielle aujourd'hui, puisque c'est quand on se met en mouvement pour chercher des solutions dans finalement les marges de manœuvre qui sont les nôtres. On n'est pas tous au gouvernement ou dans des instances internationales, on est là sur nos territoires, dans nos vies quotidiennes, et il y a énormément de choses que nous pouvons faire à cet endroit-là. Et quand on se met en mouvement, il y a plusieurs choses qui se passent, mais ça va aussi nous aider à mieux comprendre les problématiques qui nous concernent. Un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, par exemple, la pollution plastique. Quand on cherche à réduire son impact plastique, on va mettre en œuvre un certain nombre de choses. On va essayer de réduire les emballages, de supprimer l'usage unique. Mais il y a un moment, on va se rendre compte que s'arrête l'action individuelle là où commence le systémique. Par exemple, une grande partie des microplastiques qui sont présents dans les océans viennent de l'abrasion de nos pneumatiques. Un individu, consommateur a très peu de marge de manœuvre sur l'industrie des pneumatiques, par exemple au niveau mondial. Donc là, on voit bien que la problématique, elle n'est pas uniquement dans la consommation. Elle est aussi dans la matière elle-même et dans des choses qui sont beaucoup plus systémiques. Alors moi, ça fait partie des discours que j'essaie de promouvoir. Je sais que je ne suis pas la seule, mais quand on cherche des solutions avec l'exacte même logique qui nous a conduit au problème, on se heurte dans le mur. Et cette logique, c'est une logique qui s'est mise à tout séparer pour analyser les choses de manière en silo, de manière extrêmement séparée les unes des autres. Or, et là, la Frappna est beaucoup mieux placée que moi pour le savoir, tout dans le monde vivant fonctionne en interdépendance. On ne peut pas raisonner en silo de cette manière-là. Donc pour moi, il y a besoin, dans notre recherche de solutions, de tout relier, l'action individuelle collective, et de relier aussi les différentes typologies de solutions et dans cette vision globale et systémique, ce qui n'empêche pas l'action locale très dirigée aussi.
Merci Nelly. Alors on en parlera de façon plus approfondie dans d'autres émissions, mais c'est vrai qu'à la Frappna, on cherche à sensibiliser à la complexité d'appréhender le monde dans sa globalité en prenant en compte toutes les interconnexions qui existent. Et donc ce mécanisme qui consiste à avoir un problème, une solution, qui, comme tu le disais, vise à tout séparer et à analyser en silo, ça ne fonctionne pas puisqu'on supprime tous les liens. Donc oui, c'est absolument essentiel de changer de mode de vie, mais par ailleurs, il faut parvenir à un changement plus culturel, à une métamorphose culturelle, comme on l'appelle à la Frappna, pour ne pas rester dans les mêmes schémas. Et on le voit bien aujourd'hui, les solutions que l'on trouve ne sont que des petites encoches dans ce système actuel qui est complètement destructeur et qui trouve toujours de nouvelles manières finalement de se manifester.
Oui, je veux bien compléter là-dessus. C'est un petit peu ce que j'avais envie de dire tout à l'heure quand tu dis il y a plein de choses à dire sur les solutions. C'est que on est de fait comme fasciné par des solutions technologiques sans arrêt. Déjà parce qu'on s'est construit dans notre modernité sur le mythe que le progrès serait extrêmement lié justement à toutes nos connaissances. Enfin, on s'est appelé deux fois sachant, homo sapiens sapias. On a quand même une haute opinion de notre capacité à créer de la technologie. Et il y a un autre revers de la médaille, c'est que cette technologie, même si elle n'est pas à jeter complètement, mais elle est à remettre au service d'un projet de société, elle nous empêche de voir le fond, justement. Là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur des questions beaucoup plus philosophiques, sur le lien avec notre rapport au monde vivant, ou même entre nous-mêmes. On parlait d'altérité, on parlait de l'autre. On n'a qu'à regarder déjà au sein de notre espèce comme nous sommes capables de nous comporter. Donc oui, il y a une invitation aujourd'hui. Il y a comme deux courants qui se séparent. Un courant qui continue dans cette course folle à la technologie et qui continue de raisonner en silo. Par exemple, je parlais plastique tout à l'heure, dans les les solutions qui sont proposées, parfois le plastique sort gagnant parce que dans un monde omnibulé par le changement climatique, et heureusement il faut l'être, mais je dirais omnibulé que par le changement climatique, on raisonne en bilan carbone, et en bilan carbone, comme le plastique est léger, il sort souvent meilleur. Mais à côté de ça, il aggrave la pollution chimique et plastique sur la planète, qui est aussi une limite planétaire. Donc moi j'ai envie de dire que notre technologie, elle serait finalement à remettre au service d'un projet de société qui est balisé par le cadre des limites planétaires qui nous sont données aujourd'hui et depuis 2009 par des scientifiques de Stockholm qui ont réfléchi un peu à tous les indicateurs qu'il ne faudrait pas dépasser pour ne pas remettre en question l'équilibre global de l'écosystème Terre. Donc la technologie, oui, pourquoi pas, mais si elle ne nous aveugle pas et dans un cahier des charges extrêmement strict pour assurer la durabilité des conditions de vie sur Terre.
Alors on pourrait continuer encore longtemps, mais ce sera le sujet d'autres chroniques puisque on va passer à la carte blanche. Alors Nelly, c'est le moment de la carte blanche où tu peux nous parler du sujet de ton choix. Alors qu'est-ce que tu as choisi de nous partager à l'antenne ?
Eh bien, j'ai envie de continuer sur ce lien, le rapport que l'on entretient au reste du monde vivant, parce que ça me paraît être la clé à la fois de compréhension et aussi la clé parmi les solutions que nous pouvons activer pour sortir dignement de nos crises actuelles. Et donc, on a parlé tout à l'heure de Philippe Descola, on a parlé de Baptiste Morisot, il y a encore plein d'autres gens, mais parmi les éveilleurs, on va dire ceux qui nous relient à ce monde sensible, il y a un photographe naturaliste très connu aujourd'hui qui s'appelle Vincent Munier et dont j'aime beaucoup le travail. Et un documentaire est sorti cette année qui s'appelle « La panthère des neiges ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de courir le voir. Et Vincent Munier a amené avec lui un écrivain voyageur du nom de Sylvain Tesson, qui m'a beaucoup marqué par son authenticité, par aussi la manière dont il n'avait pas honte de dire comment il se positionnait avant et à quel point ce voyage a été initiatique pour lui. Donc j'ai envie de vous lire un petit passage de son livre « La panthère des neiges » de Sylvain Tesson. On pourrait l'appeler, c'est une phrase qui vient de lui, on pourrait s'échiner à explorer le monde et passer à côté du vivant. Et c'est ce qui semble-t-il, Sylvain Tesson a fait jusqu'à ce jour où, et je vous lis ses propres mots. J'ai beaucoup circulé, j'ai été regardé et je n'en savais rien. C'était mon nouveau psaume et je le marmonnais à la mode tibétaine en bourdonnant. Il résumait ma vie. Désormais, je saurais que nous déambulions parmi des yeux ouverts dans des visages invisibles. Je m'acquittais de mon ancienne indifférence par le double exercice de l'attention et de la patience. Appelons cela l'amour. Je venais de le comprendre, le jardin de l'homme est peuplé de présences. Elles ne nous veulent pas de mal, mais elles nous tiennent à l'œil. Rien de ce que nous accomplirons n'échappera à leur vigilance. Les bêtes sont des gardiens de square. L'homme y joue au cerceau en se croyant le roi. C'était une découverte, elle n'était pas désagréable. Je savais désormais que je n'étais pas seule.
Une belle immersion poétique, merci Nelly.
Les chroniques du Hérisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nelly Ponce d'avoir été notre invitée pour la richesse de ses réponses. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre émission en replay sur le site internet de Fréquence 7 et sur notre site Frapna. Nous, on se retrouve le 4 novembre à 16h30 pour une nouvelle émission. À bientôt.